Chapitre 3. Charles Douglas Weatherwax attend depuis 3 jours dans sa suite de l'hôtel Peninsula à Beverly Hills qu'on veuille bien lui confier une nouvelle mission. Grand, musclé, élégant, des traits parfaitement sculptés qui le font ressembler à un bouchon de radiateur Art déco datant de l'époque où les automobiles avaient encore de la personnalité, il suit un régime strict, ingurgite 80 pilules vitaminées par jour, avale toutes les 12 heures une boisson énergisante baptisée Clean Green et n'oublie jamais d'appliquer sur son visage une crème solaire indice 50 le matin en se rasant. Tous les soirs, avant le dîner, il quitte l'hôtel et fait une longue promenade dans le parc qui ouvre ses portes de l'autre côté de la rue. Il profite de ses balades pour réfléchir au sens de son existence. Certaines personnes, et c'est bien triste, ne se trouve jamais de but dans la vie. Charlie n'en fait pas partie. Il sait depuis longtemps pour quelle raison il est sur Terre, ce qui rend sa mission d'autant plus satisfaisante. Lors de sa première promenade, mercredi après-midi, il a remarqué la présence d'un aveugle sur un banc, à l'ombre d'un bouquet de 3 palmiers. Le type en question a la 50aine. Le crâne rasé, il a une barbe poivre et sel soigneusement taillée et écoute sur un lecteur MP3, sans oreillette, la voix de Jeremy Irons lisant « Burnt Norton », le premier poème des 4 quatuors de Thomas Stearns Eliot. On devine qu'il est aveugle aux lunettes noires qu'il porte alors qu'il se trouve à l'ombre, à la canne blanche appuyée contre l'assise du banc, au magnifique berger allemand couché à ses pieds. La poignée de la laisse est simplement posée à côté de lui, preuve que l'animal est obéissant. Le passé et l'avenir, ce qui aurait pu être et ce qui a été, tendent vers une seule fin toujours présente. Jeremy Irons ne s'autorise aucun artifice. Sa diction sans emphase plaît beaucoup à Charlie Weatherwax. Sans un mot, il s'approche de l'aveugle. Au cours de son enfance, il est à présent âgé de 34 ans, on lui a inculqué le sens des actes de générosité gratuits. Son père, animateur de son quartier, avait le don d'obtenir des subventions destinées à améliorer le quotidien des plus nécessiteux. Quant à sa mère, elle a été principale de collège avant de prendre du galon. Tous deux sont désormais à la retraite. Charlie les a souvent entendus dire combien était gratifiant le fait d'œuvrer pour autrui. À leurs yeux, la bonté est la clé de l'estime de soi. Le lendemain, jeudi, Charlie retrouve l'aveugle sur son banc. Habillé différemment, il écoute cette fois les Dry Salvages, le 3e des 4 quatuors d'Eliot. Charlie se décide à agir. Mais de quelle façon? C'est une suite sans fin, un gémissement muet, un flétrissement sans fin. Charlie passe à côté de l'aveugle et de son chien. La voix de Jeremy Irons l'entraîne à la façon d'une feuille à la surface d'une eau impétueuse. Il ne dit rien, ne fait rien, au point d'en regretter son inaction jusqu'au soir. Au moment de dîner, ses regrets se sont métamorphosés en remords. Une vive culpabilité lui ronge le cœur. Il endort mal. Il a peu de chances de revoir l'aveugle et de réparer son erreur. Le vendredi après-midi, à la même heure que les jours précédents, Charlie découvre pourtant l'auditeur aveugle sur son banc. Cette fois, il est prêt. « Beau chien !» dit-il en grattant l'animal sous le menton avant de s'asseoir sur le banc. « Comment s'appelle-t-il » L'aveugle coupe le lecteur MP3. « Argus, c'est un amour !» Un nom pour le moins inhabituel pour un chien. L'homme tourne son visage en direction de la voix de son voisin. Dans la mythologie grecque, Argus était un géant qui avait 100 yeux. Alors c'est un nom inhabituel mais parfaitement adapté. Vous écoutiez Thomas Stearns Eliot. Oui, les 4 quatuors, or je ne m'en lasse pas. À la fois subtil et riche, sans parler de la musicalité des mots. C'est une forme de méditation pour moi. Un texte magnifique, acquiesce Charlie. Mais j'avoue ne jamais en avoir compris le sens. C'est trop compliqué pour ma petite cervelle. Je suis plus réceptif au poème qu'il a dédié au chat. » La remarque fait sourire l'aveugle. « Le guide des chats du vieil opossum. Je trouve amusant que cet homme ait été capable d'écrire des œuvres d'une telle profondeur tout en commettant sur le papier des vers aussi légers. Les chats Jellicle sont de sortie ce soir. Les chats Jellicle sortent tous à la fois, » récite Charlie. Le maître d'Argus enchaîne. « La lune Jellicle brille dans le ciel. Les Jellicle se rendent au bal Jellicle. » Dans l'espoir de se rattraper des jours précédents, Charlie a pensé à apporter un steak haché préparé avec le plus grand soin par les cuisiniers de l'hôtel Peninsula. Il l'a sorti de son sachet de plastique en s'approchant du banc. Il n'a donc plus qu'à déposer la viande devant le berger allemand. Il veille à ce que l'aveugle n'entende pas son chien dévorer le steak en récitant d'une voix sonore les premiers vers de « Macavity, le chat mystérieux ». Il s'acquitte de sa mission avec infiniment moins de talent que Jeremy Irons. « Je m'appelle Harvey Hemingway », conclut-il. « Aucun rapport avec l'écrivain. Mes amis m'appellent Harv. » « John Duncan », se présente à son tour le barbu chauve amateur de Thomas Stearns Eliot. « Enchanté de rencontrer un admirateur du vieil opossum. » Charlie poursuit la conversation pendant quelques minutes. Il attend que personne ne soit à portée de voix pour déclarer soudain. « J'ai donné du steak haché à Argus. » « Ah, ce n'est pas une bonne idée !» l'interrompt Duncan. « Dans lequel j'ai glissé un puissant sédatif, » poursuit Charlie. Inquiet, l'aveugle se raidit. Il appelle son chien. N'obtenant pas de réponse, il cherche maladroitement des doigts la poignée de la laisse sur le banc. Il tire la lanière, mais Argus s'est enfui au pays des rêves. Il en est quitte pour dormir 2 heures. Il sera ensuite groggy pendant 1 heure, mais rien de plus, explique Charlie. À quoi rime cette histoire? Veut savoir Duncan sur un ton peu amène. Tel Samson privé de la vue à Gaza, le malheureux ne représente pas une grande menace, mais il reste combatif. Charlie pose une main sur l'épaule de son compagnon. Écoute-moi bien, tête de con. Il n'y a personne dans les parages en dehors des gens qui circulent en voiture sur Santa Monica Boulevard, mais il ne voit rien d'autre que 2 amis assis sur un banc. On dit que L.A. est la cité des anges, mais je peux t'assurer qu'il y a aussi des anges en enfer, et qu'ils ne sont pas du genre commode. Si jamais tu t'avises de moufter ou d'appeler au secours, d'abord tout le monde s'en fiche, et surtout, je crève les yeux de ton chien. Aucun problème. J'ai un canif bien aiguisé. John Duncan se fige sur le banc, au point de ressembler à une statue en bronze. « Je vais t'immobiliser à l'aide d'un taser, » lui annonce Charlie. « Je vais m'y prendre à 3 reprises en procédant par des charges de plus en plus longues. Ce sera très douloureux, mais si jamais tu pousses un cri, je crève les yeux d'Argus et je m'en vais. Je ne veux pas entendre un seul gémissement, sinon c'est lui qui aura besoin d'un chien d'aveugle, c'est bien compris ?»«
Pourquoi ?» demande Duncan.
On parle souvent de ces gens qui s'efforcent de rendre le monde meilleur en faisant le bien au hasard. Eh bien, ce sont des tocards qui se complaisent dans le mensonge. Pas comme moi. C'est moi qui donne au monde son vrai visage en faisant le mal au hasard. Alors que Charlie tire le taser d'un étui dissimulé sous sa veste, Duncan se penche en avant, les mains serrées sur ses cuisses.
« Je vous en prie, » implore-t-il. « Pour l'amour du ciel !»
En guise de réponse, Charlie pose les électrodes du taser sur le cou de l'aveugle et appuie sur la détente. Pendant 5 longues secondes, John Duncan a l'impression que son corps tout entier abrite un essaim d'abeilles en furie qui ravage ses os et sa chair à la recherche d'une issue. Ses dents se mettent à claquer comme ces dentiers de farce et attrape dont on remonte le mécanisme, puis ses mâchoires se referment et se fige. Il continue pendant quelques instants à se tortiller à la façon d'un pantin après que son bourreau a relâché la détente, puis il reste paralysé sur le banc. Son visage blême est couvert d'un voile de transpiration. Un filet de bave s'échappe de ses lèvres. Par amour pour son chien, il ne pousse pas un cri. Quand bien même il aurait appelé à l'aide, Charlie n'aurait pas mis sa menace à exécution. Il aime les chiens. Il n'a rien d'un monstre. Il hait les gens, mais il aime les chiens. Il entend seulement que l'aveugle lui obéisse. La deuxième décharge dure 10 secondes. Sur Santa Monica Boulevard, les voitures ralentissent et accélèrent. Chaque automobiliste vit isolé dans sa bulle, imperméable au drame qui se joue sur le banc. Aucun homme n'est une île, un tout complet en soi, a écrit John Donne. Mais Charlie Weatherwax sait pertinemment que c'est un tissu de conneries. L'espèce humaine est un archipel d'îlots séparés par les flots déchaînés de l'océan. Les hommes et les femmes sont des tourbillons d'égoïsme, leur amour-propre trop ancré pour laisser le souci d'autrui altérer leur narcissisme. Désireux de mieux voir le regard vide de sa victime, Charlie retire les lunettes de John Duncan et s'en débarrasse avant de lui infliger une troisième décharge de 15 secondes cette fois. Toutes les terminaisons nerveuses de l'aveugle entrent en court-circuit. Ses yeux stériles roulent dans leurs orbites sous l'effet des contractions musculaires, ne laissant que des boules blanches dépourvues d'iris, aussi impitoyables que la nature elle-même. Charlie range son taser et repousse l'aveugle à demi paralysé contre le bras du banc, de façon à pouvoir subtiliser le portefeuille qu'il garde dans sa poche revolver droite. Il en sort une pièce d'identité portant une adresse, la mémorise, puis la replace dans le portefeuille et abandonne celui-ci sur le banc. Moins d'une minute s'est écoulée depuis la décharge initiale. Le parc appartient toujours aux deux hommes, même si l'on aperçoit une femme avec une poussette au niveau de l'entrée donnant sur Wilshire Boulevard. « Tu m'entends, Johnny ?» demande Charlie. L'aveugle laisse échapper un grognement douloureux et Charlie se fait plus menaçant. « Tu m'entends, Charlie ?»
Oui, je vous entends.
Duncan s'exprime d'une voix pâteuse, mais ses yeux d'un bleu laiteux retrouvent progressivement une position normale. On les voit redescendre à la façon des symboles dessinés sur les roues d'un bandit manchot. J'ai regardé dans ton portefeuille et je sais où tu habites. Si jamais tu t'avises de parler de ça à quelqu'un, je viendrai te trouver.
Non, je ne dirai rien, je le jure.
Charlie se lève. Infliger le mal au hasard, Johnny. C'est la devise du monde et rien d'autre. Attends-toi à recevoir la visite du suivant. Il y a toujours un suivant. La femme à la poussette a pris place sur un banc un peu plus loin. Quand bien même il lui prendrait l'envie de poursuivre sa promenade dans la direction des deux hommes, Charlie aura disparu depuis longtemps lorsqu'elle arrivera au banc de l'aveugle. Il s'éloigne. D'un regard par-dessus son épaule, il voit John Duncan, penché en avant, vomir sur ses chaussures. Le chien se réveillera dans quelques heures. Il sera rapidement sur pied et pourra reconduire son maître chez lui avant la tombée de la nuit. La souffrance infligée à John Duncan n'est rien comparée au sentiment d'humiliation qui le hantera longtemps. Peut-être sombrera-t-il dans le désespoir, et ce n'est pas nécessairement un mal. Le désespoir, s'il ne vous tue pas, se charge de calciner toutes les croyances erronées auxquelles souscrivent tant de gens. Si l'aveugle voit réduite en cendres ses illusions, s'il parvient à la vérité, s'il comprend que le monde n'a aucun sens et qu'il est gouverné par le hasard, que seul compte le pouvoir, et qu'on obtient celui-ci en infligeant aux autres souffrances et humiliations, il connaîtra enfin la liberté. Malgré son handicap, il ne se laissera plus victimiser aussi aisément. Propager la bonne parole de la souffrance et de l'humiliation ou commettre au hasard des actes de cruauté n'est pas donné à tout le monde, pas même aux petits voyous ou aux politicards véreux. Les petits dealers, comme les sénateurs corrompus, se mentent quand ils affirment agir au nom de leur clan, œuvrer pour le bien commun et la justice sociale. Ils ne recherchent que le pouvoir. Les menteurs et les manipulateurs sont incapables de rebâtir un monde meilleur. À l'inverse, un missionnaire tel que Charlie Weatherwax doit repousser toutes ses illusions. Il sait que la seule vérité est celle du pouvoir.